le soir, repensons notre quotidien.
Bonjour, vous écoutez À propos, le podcast d'actualité du journal Le Soir. Tous les jours, c'est l'expertise de notre rédaction dans vos oreilles. Comment se passe la recherche d'un premier boulot? Est-ce un parcours du combattant ou existe-t-il toute une série d'aides pour aiguiller les futurs travailleurs? On va voir ça dans un instant. Mais d'abord, on vous raconte notre large enquête sur les mots du TEC, les transports en commun wallons. Je m'appelle Pierre Fagnard. À propos, voici l'actualité, comme vous l'entendez.
Grand angle.
Toute la semaine dernière, les journalistes du Pôle Planète se sont penchés sur le service de transport en commun wallon, le TEC. Une enquête qui aborde différents aspects, qu'ils soient financiers, sociaux ou de performance. Vous pouvez retrouver tous les articles de ce dossier sur notre site et dans notre application. En attendant, Benoît Julie et Éric Renette sont passés en studio pour répondre aux questions de Camille Thorlinden.
Bonjour Éric.
Bonjour Camille.
Bonjour Benoît.
Bonjour Camille.
Tout d'abord, pouvez-vous nous rappeler en quelques mots ce qu'est le TEC et pourquoi vous avez décidé de vous y pencher?
Alors, ça fait suite en fait à une série de grèves et une des plus longues grèves de l'histoire des TEC qui a eu lieu en février, suite à une série d'agressions. Et là, il y a eu une espèce de ras-le-bol affiché par les employés du TEC, reconnus en tous les cas par la direction, qui ont dit « oui, il se passe des choses » qui ne sont pas normales, il y a eu tout un processus. Et on en a profité pour se dire, au fond, il est dans quel état notre TEC, donc qui transporte 125 millions de passagers par an, ce n'est quand même pas rien, qui coûte un peu d'argent aussi, ce n'est pas non plus négligeable. Et donc voilà, on a profité de cet élément factuel pour faire le point sur les TEC, sachant que la mobilité est citée partout comme un pilier de réaction politique et ajustable pour lutter contre les dérives climatiques et la multiplication de l'utilisation des voitures individuelles et ainsi de suite.
Le service se plaint de traîner une réputation de gréviculteur. Les statistiques prouvent pourtant que le dialogue social s'est nettement amélioré. Y a-t-il réellement une baisse des grèves dites « totales » Quelle différence avec celles qualifiées d'hors cadre, devenues quant à elles omniprésentes?
Donc là aussi, les statistiques montrent que si on supprime toutes les grèves de réaction à des scènes d'agression qui vont depuis l'agression d'un conducteur, mais aussi des pavés balancés dans les vides des bus et toutes sortes de choses, on a une très nette diminution des grèves strictement tech, donc dû à l'organisation ou à la mauvaise organisation des techs, depuis qu'un programme de médiation sociale a été implanté qui impose une procédure de discussion presque obligatoire entre les syndicats et la direction. Les statistiques montrent que ces chiffres sont en nette diminution et on voit par exemple que la SNCB parallèlement relève aussi qu'en 2023 n'a jamais eu autant d'agressions de son personnel, donc c'est un phénomène de société. Et donc si on exclut le problème qui est grave et répétitif, et c'est ce qui a provoqué la grève, des agressions. Si on retire également la participation du personnel à des grèves dites nationales ou intersectorielles, on se retrouve avec pratiquement aucun litige propre à l'organisation interne des TEC ces dernières années.
Le TEC a subi un grand chamboulement en 2019 dans son organisation interne à cause d'un décret porté par les engagés et le MR. Depuis, une seule société est aux manœuvres, l'opérateur de transport de Wallonie. Cela a-t-il engendré une forte diminution du nombre de mandats en général?
Donc oui, il y a une refonte profonde de l'organisation des TEC parce qu'on avait 5 bastions qui étaient répartis et qui s'occupaient d'organiser les transports en commun en Wallonie avec une coordination globale au niveau de la région wallonne, mais chaque bastion se gérait un peu de manière très indépendante et avec des représentants de ces communes. Mais il y a plus de 260 communes en Wallonie, donc ça faisait énormément d'administrateurs, donc c'était assez compliqué de mettre tout le monde d'accord. Et une fois qu'on avait mis le TEC Liège-Verviers d'accord, c'était plus difficile d'essayer de faire quelque chose en commun si ça n'arrangeait pas le TEC de Charleroi ou ainsi de suite. Donc il y a eu une refonte, une réorganisation profonde des TEC qui a largement diminué les mandats locaux au niveau politique. C'est là où certains vont dire « oui, mais avant, on avait un accès direct pour dire « oui, mais le bus qui ne passe plus dans telle rue, dans ma commune, ça ne va pas, ça a été un choix ». Et donc maintenant, on a une organisation qui couvre l'ensemble des TEC, avec au-dessus un conseil d'administration qui a été nettement réduit en termes de nombre de participants, donc de mandats. Et enfin, la stratégie globale à mettre en œuvre par les TEC a été confiée à une haute autorité des transports qui, elle, regarde à plus long terme. Et donc, c'est elle qui regarde et qui a proposé la réorganisation de certains réseaux qu'on est en train d'implanter petit à petit. Ça va durer pendant des années. Donc, l'opérateur lui-même des techs, il gère tous les techs d'une part, et d'autre part, il applique la stratégie qu'on lui a donnée. Et donc, ce n'est plus au sein des techs même qu'on doit discuter est-ce qu'il faut faire ceci, est-ce qu'il faut faire ça. Ce qui a valu la création des bus express qui vont directement d'une ville à une autre, et ainsi de suite. Donc, ça a libéré un certain nombre de choses dans l'organisation.
Le tech fait appel à la sous-traitance d'entreprises privées pour effectuer une partie de ses prestations. C'est également le cas du service flamand de l'Aisne, mais pas de la STIP. Y a-t-il un intérêt particulier à passer par le privé ?
Alors, la réponse du TEC à ce sujet, assez objectif, c'est que c'est le fruit d'une évolution historique. Mais ceci étant, il y a certains experts qui disent que finalement, il y a quand même des différences de gestion dans la manière d'appréhender la circulation des bus selon qu'on le fait par le biais du personnel interne au TEC, donc qui roule en régie, ou selon qu'on le fait via des prestataires privés, ce qu'on appelle les loueurs, donc qui eux répondent à un appel d'offres en fait, moyennant un prix, etc. La répartition, c'est globalement ce qui se fait en régie, donc en bus propre du TEC, plutôt les circulations en ville, en périurbain. Ce qui est à charge des loueurs, c'est plutôt en rural. Et maintenant, est-ce qu'il y a un intérêt ou pas ? Ben donc, je vous le disais, les relations ne sont pas nécessairement identiques, en ce sens que si on veut changer quelque chose en interne au sein du TEC, ce sont plutôt avec les syndicats, en tout cas en matière sociale, qu'on va négocier. Tandis que si on doit imposer quelque chose du côté des privés, ben la négociation se fera entre deux entreprises, le TEC et l'entreprise privée, qui s'arrangera de son côté. Voilà, donc on peut en tirer, en tout cas certains en tirent des conclusions au niveau de la participation aux grèves, etc. Mais Eric a bien dit qu'il fallait faire attention aux chiffres qu'on diffuse en termes de grève et quant à l'appréhension qu'on a de ce phénomène au sein des TEC.
Le coût par voyageur est plus élevé au TEC qu'à la STIB. Il bénéficie d'une dotation publique d'€1 milliard par an, subvention qui a quasiment doublé en 5 ans. Ma question est la suivante, le TEC ne coûte-t-il pas trop cher à la collectivité ?
C'est une question qui est totalement ouverte et à laquelle je serais bien en peine d'apporter une réponse moi-même, puisqu'en fait c'est une question qui est éminemment politique. Qu'est-ce qu'on veut faire finalement pour promouvoir le transport public, pour promouvoir le transfert modal, pour lutter contre le réchauffement climatique ? Ce choix politique, il a été fait lors de la législature qui s'arrête, puisque le ministre Henry se targue d'avoir largement augmenté la dotation du TEC. Et il faut savoir, quand on parle de ce que ça coûte de toute façon. Donc c'est soit une dotation publique qui compense ce que l'usager ne paye pas, ou soit c'est une participation plus élevée de l'usager qui permet de diminuer la cotisation globale via l'impôt, mais de toute façon, il y a quand même quelqu'un qui paye. Alors maintenant, la question est de savoir quelle est, quelque part, la marge idéale, qui n'existe d'ailleurs pas non plus, de participation de l'usager, finalement, à la fourniture du service. Donc, au TEC, on parle de taux de couverture, c'est de l'ordre de 14%. Donc ça, c'est aussi une question de choix qui peut nous emmener éventuellement à discuter de la gratuité, auquel cas la prise en compte serait totale par l'impôt du coût du service, le passager ne payant rien.
Et je crois qu'il faut aussi éviter de comparer des cerises et des poires, parce que si on veut faire parler uniquement les chiffres, le TEC, c'est 125 millions d'utilisateurs par an pour, on va arrondir, hein, pour 1 milliard. La SNCB, c'est 240 ou 250 millions d'utilisateurs par an pour plus de 3 milliards.
Et la STIB ?
La STIP, en tout cas en termes de coût par usager, c'est moins élevé, mais c'est lié au fait que le réseau n'est évidemment pas identique.
Et on n'attend pas la même chose d'un train, qui est un transport en commun encore plus structurant que les bus, et que pour faire du ramassage scolaire dans la région d'Arlon, j'ai rien contre la région d'Arlon, dans une zone où l'espace entre les villages, donc entre les arrêts, et le nombre de personnes potentielles est beaucoup plus faible, ou organiser quelque chose pour que les écoles soient desservies dans une ville comme Bruxelles, hyper concentrée et hyper peuplée, on ne parle pas du tout de la même chose. Donc il faut se méfier de la comparaison statistique pure, mais par contre c'est intéressant de voir la volonté politique qu'il y a derrière. Est-ce que, comme l'expliquait Benoît, on veut que le citoyen paye globalement beaucoup pour que l'usager paye moins, donc on met beaucoup dans la dotation, moins dans le tarif, et donc ça, ce sont les réponses politiques et ce sont les choix qui sont affichés et qui sont potentiellement remis en question à chaque élection.
Le TEC veut s'imposer comme un acteur de la transition climatique. Il prévoit donc que plus d'un tiers de ses investissements soient liés à la décarbonation de sa flotte. Que va-t-il précisément mettre en place pour atteindre cet enjeu de taille ?
Alors, il y a deux volets quand on parle de décarbonation de la flotte. Il y en a même trois. D'une part, les bus en eux-mêmes, qui doivent passer de la motorisation diesel à une motorisation propre, donc essentiellement électrique. Il y a en amont de cela toute la préparation des dépôts, puisque ces bus, il faut les charger. Pour l'instant, il n'y a pas l'infrastructure qui est prête, donc il faut investir dans la préparation de ces dépôts, dans la formation des gens qui vont entretenir les bus, etc. Et le troisième point, c'est qu'il faut aussi tenir compte de tout ça dans l'organisation du réseau, dans la mesure où, pour l'instant en tout cas, les bus électriques n'ont pas du tout la même autonomie que les bus diesel. Et dès lors, il faut tenir compte du fait que ils vont être, si c'est sur des lignes longues, est-ce qu'ils tiendront la distance, justement, est-ce qu'ils devront être rechargés, le temps de recharge, etc. Tout ça implique un certain nombre de choses, mais la perspective est bel et bien de remplacer progressivement, au fur et à mesure du renouvellement des véhicules, d'aller vers une motorisation propre avec des objectifs qui sont fixés dans le cadre du contrat de service public du TEC.
Et pour 2030, c'est 65%
de véhicules propres.
Sur les 2700 qui alimentent le réseau.
Il reste de nombreux défis pour le service de transport wallon, comme celui d'augmenter son attractivité. Il parle notamment de modernisation et d'instauration d'un transport à la demande pour améliorer son expérience client. Pouvez-vous m'en dire plus ?
Alors, c'est un volet de tout ce qui a trait à l'attractivité qui est en fait l'enjeu principal du TEC actuellement, puisque le contrat de service public qui a été négocié avec le gouvernement wallon lui impose d'augmenter sa part modale, quasiment la doubler pour la porter à 10%. Donc c'est la part finalement de transport qu'il prend en principe à la voiture, au transport individuel. Donc il faut doper le transport en commun. C'est l'objectif global. Pour y parvenir, il faut que le TEC soit effectivement plus attractif. Dans ce domaine-là, il y a pas mal d'efforts qui sont à faire. Il faudrait que les bus soient davantage connectés, il faudrait qu'il y ait une information en temps réel, etc. Il faudrait que les bus soient plus accessibles aussi. Mais ceci étant, c'est difficile de dire on va simplement augmenter l'offre globale pour tout le monde, multiplier par deux le nombre de bus. C'est évidemment impayable. Donc la question se pose de savoir comment on va faire dans les points les plus reculés, sachant que l'idée est quand même de doper un petit peu les lignes sur lesquelles il y a davantage de fréquentation, qui ramènent davantage de monde vers les points, ce qu'on appelle d'intermodalité, vers les gares notamment, etc. Et donc, est-ce qu'on peut continuer à faire rouler des bus, je veux dire presque à vie, dans certains coins de Wallonie les plus reculés, de manière régulière, toutes les heures, toutes les deux heures, etc. C'est une question qu'il est légitime de se poser. Alors, je ne dis pas que c'est un choix qui est fait, mais en tout cas, c'est une réflexion qui est portée par le TEC, c'est d'introduire effectivement un système de bus à l'allemande, donc qui reste quand même un moyen de transport collectif, c'est pas un taxi qui viendrait vous chercher, mais ce n'est pas non plus un gros bus qui circulerait à vide de manière régulière. Donc ça passe évidemment par la technologie, ça passe par le moyen de le réserver, mais ce n'est pas encore pour l'instant en circulation, certainement pas de manière globale. C'est lié aussi, à beaucoup plus long terme j'imagine, à toute la thématique du transport autonome, du transport automatisé quelque part. Voilà, ce sont des pistes qui sont en réflexion, sachant que d'après les études du TEC, c'est d'une part moins cher de fonctionner selon ce modèle-là, et ça pollue aussi moins dans la mesure où effectivement ne fait pas rouler des bus à vide.
Il y a d'autres sujets qui ont déjà été lancés par ce gouvernement-ci, par exemple la quasi-gratuité des TEC pour les 18-24 ans, donc c'est un abonnement de 12 euros par an, donc ce n'est pas excessif, et 18-24 ans, c'est l'âge où beaucoup de jeunes optent ou pas pour la voiture individuelle. Et donc en disant, on va essayer de leur montrer que oui, on peut aller à l'école, à l'UNIF, au boulot et sortir, etc., avoir des solutions de transport commun, donc au moment où se pose la question, est-ce que j'achète une voiture et ainsi de suite. Donc il y a différents travaux d'attractivité qui sont possibles et qui sont aussi sur la table et qui seront sur la table du prochain gouvernement.
Merci Eric.
Merci Camille.
Merci Benoît.
Merci Camille.
Ils ont entre 18 et 30 ans, fraîchement diplômés, ils s'apprêtent à faire leur entrée dans la vie active. Le Soir a voulu mettre un coup de projecteur sur les aspirations, les questionnements, les espoirs d'une génération. Comment envisagent-ils le travail ou le logement ? On va répondre à ces questions tous les lundis. Aujourd'hui, on s'intéresse au premier boulot. La recherche du premier travail, ce premier vrai pas dans la vie active, n'est pas toujours simple à effectuer. Julien Cambier a demandé à plusieurs jeunes de nous raconter leur parcours, comment ils ont cherché et comment ils ont trouvé ce premier job.
Donc je m'appelle Manon, J'ai 25 ans et je viens de Bercel. J'ai fait des études d'infirmière au Parnasse ISEI à Woluwe-Saint-Lambert. Pour mon premier travail, donc, j'ai regardé un petit peu des annonces sur internet de job en tant qu'infirmière. Et donc là, je suis tombée sur une société de soins à domicile. Et première chose que j'ai fait, c'est que j'ai envoyé un mail. Et du coup, j'ai eu une réponse le soir même. Et le lendemain, j'avais un entretien d'embauche. Et le lendemain même, j'ai été du coup prise pour faire ce premier job.
Je m'appelle Giacomo, j'ai 29 ans et j'habite à Bruxelles. J'ai réalisé un master en communication et en relations publiques à l'UC Louvain à Louvain-la-Neuve. Alors, j'ai trouvé mon premier job via le bouche-à-oreille lorsque je suis sorti des études en 2019. C'était la période de Covid, donc la situation sanitaire a vraiment complètement bloqué le marché de l'emploi à l'époque. Donc, de la période de juin à plus ou moins fin février, j'ai cherché du travail. C'était très compliqué de trouver du travail sans expérience professionnelle préalable. Donc, je n'ai vraiment rien trouvé de satisfaisant et qui pouvait correspondre à ce que je recherchais, à mes valeurs et mes attentes professionnelles. Ensuite, le Covid est arrivé, ce qui n'a évidemment pas facilité les choses. Et comment est-ce que j'ai trouvé mon premier job? Principalement via le bouche à oreille. Donc, c'était une connaissance d'amis qui cherchait un profil de communicant pour sa jeune entreprise de communication digitale.
Bonjour, je m'appelle Daniel, j'ai 29 ans. J'ai fait un bachelier en sciences politiques. Ensuite, j'ai commencé un master en sciences de la population et du développement que j'ai pas fini. Après ça, j'ai fait un master en cours du soir de sciences politiques, histoire d'avoir un diplôme de master en poche. Pour trouver un travail, c'était quand même assez compliqué. Pendant plus ou moins 8 mois, d'abord, je cherchais auprès d'entreprises privées, donc plutôt des banques, parce qu'en fait le problème c'est qu'avec le diplôme de sciences politiques, tu peux un peu tout faire, mais tu es spécialisé dans rien. Et donc tu ne sais pas vraiment vers quoi tu peux te diriger. Donc je contactais des banques pour tenter d'avoir un premier job. Donc là, les interviews se passaient pas spécialement bien. La plupart des moments où j'avais des entretiens d'embauche avec des firmes, on me demandait quelle expérience j'avais. J'en avais aucune. On me demandait si je parlais néerlandais. Je disais que non. Et du coup, on me disait qu'il n'y avait pas d'offre pour moi, mais que si je voulais, je pouvais faire un stage. Et j'étais pas très emballé à l'idée de faire ça. J'avais pas envie de perdre mon temps, j'avais envie d'avoir de l'argent et d'enfin pouvoir commencer à vivre. En parallèle, mon frère, quand il m'a vu galérer avec mes recherches d'emploi, il m'a dirigé vers le CELOR et vers la fonction publique. Et donc, bah, c'est un processus qui est assez fastidieux au début, mais je dirais que ça vaut la peine parce qu'une fois que ça s'est fait, bah, tu peux postuler absolument toutes les offres d'emploi en un clic, donc les offres dans le public. Mais d'ailleurs, à propos de l'expérience, il y avait énormément de fonctions où en fait, ils ne cherchent pas quelqu'un d'expérimenté, ils cherchent à former les gens. Donc ça, c'est tout à fait positif pour moi. Enfin, ça l'était à ce moment-là. Et donc là, j'ai fait plusieurs concours. Et une fois que tes résultats sont connus, tu étais invité à faire une interview. Et donc bah, là, c'était un nouveau challenge pour moi parce que en fait, apprendre à répondre à une interview correctement, c'est quelque chose que je n'avais jamais fait. Bah, les premières interviews, j'en sortais très confiant en me disant « ça s'est super bien passé, j'étais très à l'aise ». Mais en fait, non, c'était une catastrophe. Je sortais de là où on me disait « vous n'êtes absolument pas motivé ». Donc j'ai essayé de comprendre c'était quoi cette motivation qui cherchait exactement, et donc c'est se renseigner pour qui tu travailles, qui est le ministre en charge, quel est l'organigramme, etc. Donc il y a un peu une façon de répondre pour montrer que ce job t'intéresse et donc tu as fait des recherches pour ce job parce que tu veux avoir ce job. Et donc voilà, les interviews allaient de mieux en mieux. Donc j'avais encore plusieurs candidatures ouvertes en parallèle et à un moment donc, j'ai été invité pour une interview à la Défense belge. Bah, en fait ça s'était super bien passé, j'ai été parmi les mieux classés pour le job et donc j'ai commencé le mois qui a suivi.
On l'a entendu, pour certains tout se passe rapidement et facilement, mais ça peut parfois s'avérer plus compliqué. Et pour aider les jeunes à trouver un travail, des accompagnements gratuits sont disponibles auprès du Forum en Wallonie et d'Actiris à Bruxelles. On en parle avec Romain Adam, porte-parole d'Actiris, qui nous donne aussi quelques conseils pour optimiser sa recherche.
Alors, il y a plusieurs manières d'accompagner les jeunes, toujours en fonction des profils. Comme vous le savez, Bruxelles est une ville très diverse en termes de profils, et donc on a des gens qui sont hautement qualifiés, d'autres qui le sont moins. La première chose, c'est qu'il y a vraiment un accompagnement personnalisé sur mesure. Donc, chaque jeune a une personne de contact qui est fixe au sein de l'organisation, qui donc va connaître son profil et va pouvoir l'orienter. Ensuite, ce qu'on propose aussi depuis septembre 2023, c'est un bilan de compétences linguistiques et numériques. Pourquoi on le fait ? C'est parce que ça va permettre aux jeunes d'objectiver en fait ses compétences, parce que souvent, on travaillait sur un mode déclaratif dans lequel le jeune arrivait et disait « mon niveau de néerlandais, c'est X ». Mais en fait, aujourd'hui, grâce à ce bilan, ça nous permet d'objectiver les compétences et surtout, en fonction de ses compétences et du projet professionnel du jeune, eh bien de l'orienter potentiellement vers des formations, qu'elles soient courtes, typiquement en néerlandais, pour améliorer un peu le niveau si on juge que ça peut être amélioré, ou aussi des formations de type plus long. Je pense ici à des personnes qui sont peut-être moins qualifiées, qui arrivent chez nous, et là, via le catalogue de Bruxelles Formation, on peut proposer des formations qui sont plus longues et qui mènent à l'emploi. Donc, tout dépend évidemment du profil. Mais la chose la plus importante, c'est vraiment cet accompagnement personnalisé. Il y a aussi des workshops, des ateliers pour apprendre à faire son CV, sa lettre de motivation, qui sont des choses évidemment importantes lorsqu'on essaie de s'insérer sur le marché de l'emploi. Et évidemment, toutes les offres d'emploi qui sont chez nous et qu'on va évidemment proposer aux jeunes en fonction de son profil pour qu'ils puissent commencer à postuler. Le premier conseil, c'est justement prendre les conseils de personnes qui ont de l'expérience. Alors, ça peut être dans l'entourage direct, évidemment, les amis, la famille, ou aussi via Actiris. C'est évidemment les services qu'on prodigue. La base pour moi aujourd'hui, c'est avoir un bon CV, une bonne lettre de motivation, savoir quelles sont les techniques qu'on peut utiliser en entretien. Ça, ce sont des choses qu'on peut apprendre effectivement via les relations directes ou via Actiris. Le deuxième gros conseil que j'aurais à donner, c'est de rester dynamique sur le marché de l'emploi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a de nombreux événements qui existent. Je pense au Job Day notamment, où en fait, le Job Day permet de rencontrer plein d'employeurs au même endroit, souvent. Et ça nous arrive, on le voit beaucoup, de ressortir avec un contrat directement. On arrive, on passe un entretien, on ressent un contrat, ou en tout cas une proposition de contrat. Il y a aussi plein de workshops qui existent, des ateliers qui sont organisés soit par Actiris, soit par d'autres partenaires. Et donc, le deuxième grand conseil, c'est essayer de ne pas s'enfermer, de rester ouvert au monde de l'emploi, pas rester dans sa chambre et de postuler. Et du coup, ça fait le lien avec ce que je ne ferais pas si j'étais aujourd'hui un jeune à la recherche d'un emploi, c'est de postuler tout azimut à toutes les offres qu'on voit passer. Je pense qu'il vaut mieux privilégier la qualité à la quantité et donc essayer vraiment de cibler les offres qui nous intéressent, là où on sent qu'il y a un fit, pour ne pas faire d'erreur, en fait, tout simplement, et pour ne pas se retrouver dans un endroit où finalement on ne se sent pas à l'aise ou qui ne correspond pas à ce que la personne est. Et aussi parce qu'évidemment, si on postule partout, tout le temps, on risque aussi de recevoir plus de refus parce qu'on ne correspond peut-être pas simplement pas à l'offre. Et ça peut aussi jouer sur le moral, je pense, de manière générale, de la personne qui postule. Donc ça serait mes trois gros points en termes de conseils.
Dans la recherche d'un travail, le niveau de qualification a un impact très important sur les chances de réussite. Le conseil le plus important est donc de se former le plus possible. Mais si vous voulez vraiment maximiser vos chances de trouver un job, certaines filières vous garantissent quasiment à coup sûr de trouver un emploi en fin de formation.
En fait, le niveau de qualification est très important. Ça a un impact direct sur les chances de trouver un emploi. Aujourd'hui, on estime que 3 jeunes sur 4 qui sont diplômés de l'enseignement supérieur, donc supérieur c'est bachelier, master, trouvent un emploi dans l'année qui suit leur inscription chez Actiris, donc environ 75%. Pour les jeunes qui sont diplômés du secondaire, environ la moitié trouvent un travail dans l'année, donc 50%. Et pour les jeunes qui n'ont pas d'éducation, un niveau d'éducation inférieur ou un diplôme étranger sans aucune équivalence, alors là, on tombe à un tiers. Donc on voit à Bruxelles, et c'est toute la spécificité de Bruxelles, on est une économie tertiaire, les employeurs sont à la recherche de personnel qualifié, et donc on voit que plus haut le diplôme est à Bruxelles, plus grandes les chances sont de trouver un emploi. On voit que l'enseignement, les sciences appliquées, l'administration et le management, le paramédical, le travail social et l'aide aux personnes sont des filières où on est quasiment certain aujourd'hui de trouver un emploi.
Si malgré tous vos efforts, vous ne parvenez pas à trouver un emploi, ou si au contraire, après plusieurs années de travail, vous aimeriez vous orienter vers un autre domaine, sachez que du côté du Forum et d'Actiris, il existe des programmes qui permettent de reprendre des études sans perdre ses droits au chômage, à condition que cette formation débouche sur un métier en pénurie. Une possibilité dont a profité Anthony, qui nous raconte son histoire.
Bonjour, moi je m'appelle Anthony, j'ai 29 ans. Tout d'abord, en secondaire, j'ai fait des études qualifiantes. Donc j'ai eu mon CVSS et mon diplôme de technicien chimiste A2. et j'ai travaillé pendant 5 ans et ensuite j'ai repris des études à 26 ans pour être professeur de sciences. Alors, bah, étant donné que donc j'ai repris mes études parce que c'est un métier en pénurie, donc j'ai pu aller au chômage, donc avoir une dispense de recherche d'emploi et reprendre mes études vu que c'est un secteur en pénurie. Et là, je suis actuellement en dernière année. Il me reste simplement mon TFE à faire. Vu ce cas de figure-là, ben, mes professeurs m'ont autorisé à déjà aller travailler. Et donc, j'ai envoyé mon CV et ma lettre de motivation à la communauté française. Et le lendemain, j'ai une école qui m'a appelé pour aller travailler. Donc, j'ai été engagé en temps plein directement après ça.
À propos, c'est fini pour aujourd'hui, mais on revient demain matin. Dans la perspective des élections, Le Soir organise des rencontres débats entre des présidents de parti et des abonnés. Si vous avez envie de participer, il suffit de vous inscrire sur le site bonsoir.lesoir.be. En vous inscrivant, vous aurez aussi la possibilité de poser votre question. Merci pour votre écoute et à demain.